Alors, on y va. C'est parti. Hop là. In. Yovim. Tov, alors Boker Tov, les Koulam, Boker Tov, et on revient dans notre étude sur l'histoire de la Kabbalah, et on ne veut pas partir de la fin du 19e siècle. Bon, je vais vous dire, hein, plus on se rapproche de notre époque, et plus ça nous parle, puisque les choses sont pratiquement des contemporains, les enseignants de cette Torah fantastique sont pratiquement des contemporains à ce niveau-là, et donc, eh bien. Et on ne peut pas faire l'impasse de certains des géants. Alors, on avait parlé la dernière fois d'un des grands, grands maîtres de la Chassidoute qui s'appelle Reb Tzadok HaKohen Miloublin. Et avant de partir sur les terres de Bagdad, puisque nous allons à un moment donné quand même arriver à Rabbi Yosef Haïm, mi Bagdad, eh bien aujourd'hui, on ne va pas encore arriver à Bagdad, puisque aujourd'hui, on va rester à Yerushalayim. Voilà, entre la Pologne et Bagdad, et bien à Jérusalem. Donc aujourd'hui, on reste à Yerushalayim et on va parler d'un personnage et d'une Torah, mamash Eretz israélienne, j'ai envie de dire. Une Torah Eretz israélite. Et ça, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable, d'autant plus que, en fait, si on avait pu, on aurait dit. Le cours, c'est le Johnny Hallyday de chez nous. Voilà. Alors, calmons-nous. Qu'est-ce que ça veut dire, le Johnny Hallyday? Je ne sais pas s'il y a déjà des gens parmi vous qui se sont baladés à Petah Tikva. S'il y a des gens qui se sont baladés à Petah Tikva, eh bien, peut-être. Ont-ils, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont arrivés sur le Kikar Miyasdim de Petah Tikva, et à ce moment-là, eh bien, ils ont peut-être réussi à apercevoir une statue. Une statue représentant un personnage qui est sur l'entrée de la ville. Et ce personnage-là, eh bien, est représenté sur une Harley Davidson. Bon. Avec des ailes dans le dos, ce qui est assez problématique puisque à l'époque de ce personnage, il n'y avait pas de Harley Davidson. Mais alors qu'est-ce qu'il fait là avec des ailes et une moto? Qui est ce personnage? Personnage qui d'ailleurs sera mis en chanson par ni plus ni moins que un des maîtres de la chanson israélienne, j'ai nommé Arik Einstein. Eh bien, Arik Einstein, il va parler des cinq cavaliers guidés par notre personnage aujourd'hui. Et notre personnage aujourd'hui s'appelle Rabbi Yoel. Ah, tiens, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il s'appelle Rabbi Yoel, mais pas Benaroche. Il s'appelle Rabbi Yoel Moshe Salomon. Rabbi Yoel Moshe Salomon. Alors là, les amis, on est parti pour une aventure absolument incroyable. Et ce qui est tout à fait incroyable dès le départ de notre étude ce matin, c'est que ces enseignements, tu vois, vraiment, tu n'aurais pas pu faire une meilleure introduction, David, ces enseignements à Rabbi Yoel Moïse Salomon, eh bien, n'ont pas été mis par écrit. C'est-à-dire qu'il n'a écrit aucun bouquin. Il est une Torah de vie. À chaque fois qu'il va faire quelque chose dans sa vie, et vous allez voir quelle vie il a eue, à chaque fois, il explique ses actions par sa Torah, d'où ça lui vient, et à chaque fois qu'il explique, Zet Torah Tassod. Mais pourquoi? D'où vient-il? Où est-ce qu'il a puisé sa Torah, Reb Yoel Moïse? Eh bien, Rabbi Yoel Moïse Salomon ne commence. BSF. Aïe, 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 je me fais éjecter de ma propre maison. C'est incroyable. Tov. Hop là. Hop là. Tout va bien. J'ai changé de pièce. C'est parti. Hop là. Yofi. Donc, notre jeune Yoel Moïse, d'où vient-il? Où a-t-il grandi? Et où a-t-il découvert Torah Tassod? Eh bien, les amis, que vous dire? Il adore plus que tout le petit Yoel Moïse quand il est encore petit, être sur les genoux de son grand-père. Il est le plus grand fan de son grand-père. Son grand-père, c'est son héros. Son grand-père, c'est son modèle. Et son grand-père, c'est qui? Eh bien, son grand-père, c'est Rabbeinu et Shlomo Zalman Tzoref. Reb Shlomo Zalman Tzoref. Misé. C'est qui, Rabbi Shlomo Zalman Tzoref? Est-ce que je suis censé le connaître? Ben évidemment que tu es censé le connaître, puisque Reb Shlomo Zalman Tzoref fait partie des élèves du Gaon de Vilna. Il fait partie de ces élèves que le Gaon de Vilna lui-même a envoyés en Eretz Israël. On a parlé des élèves du Gaon de Vilna, de ceux qui ont construit, reconstruit la synagogue de la Chourva à Jérusalem. Reb Shlomo Zalman Tzoref, c'est celui qu'il va tout simplement être le responsable de la reconstruction de la Chourva. C'est lui qui va chercher l'argent. C'est lui qui est le chef des Juifs ashkénazes à Jérusalem. Mais ça, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi parce que il puise, donc le petit Yoel Moïse, toute sa Torah dans les bras de celui qui était l'élève du Gaon de Vilna. Bien, c'est de ça qu'on parle. C'est de toute cette Torah Tassod-là qu'on a appris. Parce que vous vous rappelez bien que le Gaon de Vilna, comment il est arrivé à la conclusion qu'il fallait revenir en Israël, ramener ses élèves, reconstruire la Chourva, tout ça, c'est l'enseignement de Et Azamir Igia, Vekol Ator Nishma Ba'artzenu. Et oui, car Reb Shlomo Zalman Tzoref n'est pas celui qui a écrit le collator de Rabbi Hillel Mishklov et Rabbi Israël Mishklov, mais il est un de leurs chavrutot. C'est-à-dire qu'on parle de toute cette ambiance-là qui a ramené les Juifs ashkénazes à Jérusalem au tout début du 19e siècle. Donc voilà, c'est de ça qu'on parle. Et c'est là-bas que va grandir le jeune Yoel Moïse. Alors, bon ben c'est très bien. Il a fait mode. Le run... Le Rebbe Yoel Moïse va grandir, va très vite devenir un élève de Torah extrêmement assidu et il va porter un terrible drame dans le cœur et dans tout son être. Car son grand-père, son héros, celui qui a reconstruit Jérusalem, eh bien, les amis, va être assassiné par des Arabes dans les ruelles de Jérusalem. Reb Shlomo Zalman Tzoref est donc l'une des victimes du terrorisme arabe Bayami Mahem et malheureusement Gambaz Banazé. Et ainsi, Reb Yoel Moïse Salomon va grandir sur les deux piliers que lui a laissé son grand-père, la Torah Tassod du Gaon de Vilna et de l'autre côté, le fait d'être obligé de savoir se défendre en terre d'Israël. Et ça, ce sont les deux piliers qui vont eh bien, le conduire pendant toute sa vie. Alors, il est envoyé assez rapidement. Il est envoyé assez rapidement en Khoutzalaharetz. Mastomet, il est envoyé en Khoutzalaharetz parce qu'à ce moment-là, l'écrasante majorité des yeshivot, eh bien, elles sont encore en Khoutzalaharetz. Et donc, eh bien, on l'envoie là-bas pour continuer ses études de Torah, pour qu'il puisse grandir en Torah. Lorsqu'il revient, eh bien, il est face à une réalité. En fait, cette réalité, il la connaît, parce qu'il l'a pratiquée déjà quand il était encore très jeune, mais même quand il revient en Israël. C'est quoi cette réalité? Eh bien, cette réalité, c'est que on va découvrir pour la première fois des Ashkenazim qui se déguisent en séfarades. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on a des Ashkenazim qui se déguisent en séfarades? Eh bien, pour une raison très simple. À l'époque de Rabbi Yehuda Hassid, à l'époque de la construction, de la première construction de la Chorva, eh bien, lorsque finalement Rabbi Yehuda Hassid meurt et que les Juifs n'arrivent pas à rembourser la dette qu'ils ont contractée envers les Arabes de la région pour emprunter de l'argent pour construire la synagogue, eh bien, les Arabes donnent une xéra terrible. Un Juif Ashkenaz n'a plus le droit d'habiter à Jérusalem tant qu'il n'aura pas payé ses dettes. Je dis Ashkenaz parce que les Juifs séfarades, eux, ils ont leur synagogue et ils sont en règle dans leur paiement avec les Arabes. Donc, les Juifs séfarades ont le droit de vivre à Jérusalem. Et c'est là que va commencer eh bien, une réalité incroyable où les Juifs Ashkenaz, pour pouvoir rester à Jérusalem, vont devoir se sfaradiser. Ça veut dire quoi se sfaradiser? S'habiller en séfarade, prier en séfarade, étudier en séfarade et surtout parler en arabe. Imaginez-vous le mec qui parle en yiddish et qui d'un coup doit apprendre à parler l'arabe. Ce n'est pas vraiment la même limonade. Et c'est très important. Les juifs de Jérusalem, comme Shlomo Zalman Tzoref, le grand-père dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, ils parlent tous arabe. Et ils vont transmettre cela à leurs enfants et leurs petits-enfants. Si bien que Rabbi Yoel Moïse Salomon, alors que les choses sont en train de se stabiliser, les juifs ashkénazes, à l'époque de Rabbi Yoel Moïse, ont payé leurs dettes aux arabes, peuvent donc redevenir ashkénazes à Jérusalem. Il n'empêche qu'ils continuent à enseigner l'arabe à leurs enfants, mais alors plus cette fois aux hommes, mais uniquement aux jeunes filles. Pourquoi aux jeunes filles? Ben parce que les hommes, eux, ils vont aller étudier la Torah, donc ils n'ont pas besoin de comprendre l'arabe. Mais les jeunes filles, c'est elles qui vont être au quotidien de la ville, puisque c'est elles qui vont aller au marché, c'est elles qui vont aller... Et donc, ben elles ont besoin de parler l'arabe. Résultat des courses, si Rabbi Yoel Moïse, il comprend l'arabe, parce qu'il habite quand même dans une région où on parle arabe, mais c'est sa femme, beaucoup plus tard, qui sera une actrice fondamentale de l'histoire, grâce à sa bilinguitude. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Bekitsour, donc, notre Rabbi Yoel Moïse Salomon va grandir dans cette réalité-là. Il grandit dans cette réalité-là. Qu'on a besoin de reconstruire ici. Ce n'est pas seulement la synagogue de la Chorva. Il faut reconstruire. Sa mère, Hana, se rappelle que l'une des premières questions que son fils va lui poser, c'est une question qui lui provient d'un enseignement de son grand-père. Elle lui dit... Enfin, le jeune Rabbi Yoel Moïse lui dit « Maman, j'aimerais bien que tu me donnes un peu d'argent. » Il dit « Ah bon ? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un peu d'argent ? Bémet ?» Et il demande d'acheter un morceau de papier et une mine de crayon. Oui, mais c'est des choses qui ne nous parlent tellement pas. Acheter du papier et un crayon, ça nous paraît tellement une évidence. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, ce n'était pas forcément évident d'avoir ce genre de choses. Et donc, pourquoi est-ce qu'il achète ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il apprend de son grand-père que « Et la sot l'Hachem, eferu toratecha » ça, c'est ce qui a été pendant 2000 ans, qu'on n'a pas le droit de mettre par écrit la Torah orale. Torah orale, ça doit rester oral, Torah écrit, c'est écrit. Mais depuis Rabbi Yehuda Hanassi et la Mishnah, eh bien, on a mis par écrit la Torah orale. Nous dit Rabbi Yoel Moïse, moi, je veux utiliser ma mine de crayon et mon papier, non pas pour écrire des chidouché Torah, parce que les chidouché Torah ne doivent pas être écrits sur un livre, mais doivent être écrits dans la vie. Et donc, ma mine de crayon et mon papier ne seront pas là pour écrire des livres, mais seront là pour écrire des tâches à accomplir. Mais vous vous rendez compte? On parle d'un gosse qui a 8 ans. J'ai appris que la Torah ne doit pas être mise par écrit, mais elle doit être vécue. Et donc, eh bien, je ne vais pas écrire des bouquins pour dire ce qu'il faut faire, je vais écrire ce qu'il faut faire. Et c'est dans cette ambiance-là que notre petit Yoel Moshe, donc on a dit, part étudier la Torah dans les Yeshivot en Europe. Et il grandit. Il grandit très rapidement. Tout le monde reconnaît sa grandeur en Torah. Et donc, bah, c'est tout naturellement que très vite, on lui demande de devenir rabbin de communauté. Velom Chane Eze communauté. On lui a proposé beaucoup de communautés. Et Rabbi Yoel Moshe n'accepte pas. Il n'accepte pas. Pourquoi n'accepte-t-il pas? Il répond toujours la même chose. Ani Ish Yerushalayim. Je suis un homme de Jérusalem. Je ne vais pas me devenir rabbin d'une autre communauté et certainement pas en Chutz Laaretz. Donc il dit tout le temps qu'on lui propose d'être le rabbin d'une communauté, il dit Im eshkacher Yerushalayim tishkach yemini. Ani lo. Ani ish Yerushalayim. Moi, je reste à Jérusalem. Top. Alors, Bessader, tu restes à Jérusalem, tu restes à Jérusalem. Bessader, alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant à Jérusalem? Oh, eh bien, c'est quand même pas compliqué. Rabbi Yoel Moshe ne veut pas être un rabbin, mais il va être un dirigeant. On a dit, c'est sa Torah Tassod qui lui a expliqué qu'il faut écrire les tâches à accomplir et non pas des Hidouché Torah. Et donc, il se met à écrire. Et qu'est-ce qu'il se met à écrire? Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut écrire ce qu'il faut faire. Lorsqu'il est en Chutz Laaretz, il apprend donc la Torah, il devient rabbin, ce que tu veux, mais pas de communauté. Mais il comprend qu'il faut travailler. Ben oui, parce que vous rappelez que Torah Tassod est... expliquer qu'il faut travailler. Tu peux pas être en train de faire la panacée. Excusez-moi.
Ah, vous êtes en mute. Attends.
Yofi. C'est bon? On m'entend?
Yofi. Ouais, c'est d'ailleurs maintenant.
C'est bon. Donc, comme on disait, alors, il a compris de son étude de Torah Tassod qu'il faut avoir un métier. Mais la question, c'est pourquoi il faut avoir un métier? Est-ce que c'est simplement pour avoir une parnassa? Et là-dessus, je réponds tout de suite, non. Ce n'est pas seulement pour avoir une parnassa. Bien sûr qu'il faut une parnassa et que tu ne peux pas prendre ta parnassa de la Torah. Mais il y a aussi une valeur en soi dans le fait d'avoir un métier parce que tu vas construire quelque chose. Et donc, il apprend un métier. Qu'est-ce qu'il apprend comme métier? Il apprend le métier d'imprimeur. Et c'est pour lui fondamental. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va rentrer en Eretz Israël, à Jérusalem, il va créer la première imprimerie de Jérusalem. Première imprimerie de Jérusalem, c'est fantastique! Il va créer non seulement une imprimerie, mais il va également créer un journal. Le premier journal juif à l'intérieur de Jérusalem. Mais c'est absolument incroyable. Rabbi Yoel Moshe Salomon, on parle de la deuxième moitié du 19e siècle, on a dit, c'est 1838. Il naît en 1838 et il commence son activité en 1865. Donc 1838, la naissance de Rabbi Yoel Moshe Salom. Il va agir pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle. Mais Kitsour, donc, il écrit il construit son premier journal, le premier journal juif à l'intérieur d'Eretz Israël. Et ce journal s'appelle Halevanon. Pourquoi Halevanon ? Halevanon, c'est le nom du Beth Amikdash. Et pour lui, le journal Halevanon n'est pas là pour raconter les nouvelles. Ce n'est pas BFM. Halevanon, c'est un journal qui, en fait, est un livre de Torah. Puisque dans ce journal, eh bien, il va s'occuper d'une seule chose, à savoir de rappeler aux Juifs que nous avons une terre, qu'il faut y revenir, que sur cette terre, il faut la reconstruire, il faut la garder et il faut la protéger. Zéro. Et donc, son journal a vocation, j'ai envie de dire, de feuille de route. De feuille de route pour construire une nouvelle réalité pour les Juifs qui habitent en Israël. Et OK. Il y a David qui a partagé un truc. J'ai pas vu. Quoi qu'il en soit, très bien. Mais à un moment donné, Rabbi Yoel Moïse décide de partir dans un autre sphère, dans une autre slave. Il ne s'agit plus seulement d'écrire les tâches à accomplir. Il ne s'agit plus de le faire en grand seulement avec un journal et de dire voilà ce qu'il faut faire. Il est temps de le faire. Et donc, Rabbi Yoel Moïse Salomon écrit dans son journal à Lebanon que là maintenant, il va s'occuper d'un nouveau projet. Comment ça ? Je vais créer un nouveau quartier. Je vais créer un nouveau quartier à Jérusalem. Voilà, c'est terminé. Yalla. M'en fous, donnez-moi le stylo. Où est-ce qu'on signe ? C'est parti. Je crée un nouveau quartier à Jérusalem. Comment ça, un nouveau quartier à Jérusalem ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? De quel quartier tu es en train de parler ? Eh bien, il va tout simplement créer en 1869. En 1869, eh bien, il va créer quelque chose d'absolument incroyable. Il crée un nouveau quartier à l'extérieur des murailles. À l'extérieur des murailles. Oui, messieurs, dames. Oui, on parle de la même réalité que Nahalat, Yamin Moshe, Mishkenot Sha'ananim. En 1869, il va créer Nahalat Shiva. Vous connaissez cette rue à Jérusalem ? Il y a des parapluies aujourd'hui. Il y a des parapluies de toutes les couleurs sur la rue. Nahalat Shiva. Incroyable. Nahalat Shiva est la troisième shruna, le troisième quartier à l'extérieur des murailles. Après Mishkenot Sha'ananim et Machane Israël. Incroyable. Rabbi Yoel Moïse Salomon. Pourquoi ça s'appelle Nahalat Shiva ? Eh bien parce que ils sont sept familles à se cotiser pour acheter cette région-là. Je veux bien que vous rappelez-vous, il n'y a pas de la Jérusalem d'aujourd'hui. Il y a la vieille ville, et puis c'est tout. Il y a le quartier de Mishkenot Sha'ananim en face de la vieille ville, et puis c'est tout. Et donc, en fait, ce nouveau quartier va être adjacent à Mishkenot Sha'ananim pour continuer à faire la jonction avec la vieille ville. Et dans ce quartier de Nahalat Shiva, pourquoi est-ce que je le mets au nom de Rabbi Yoel Moïse, alors qu'ils sont sept, eh bien, pour une raison très simple. Il est le seul à rester dormir là-bas la nuit. Alors que tous les autres sont la journée là-bas, mais pendant la nuit, ils retournent dormir à l'intérieur des murailles de la vieille ville. Et donc, ça ne laisse pas véritablement la possibilité de devenir vraiment, un endroit, quoi. Un endroit de vie. Si tu ne dors pas là-bas, ce n'est pas un endroit de vie. Bon. Donc, lui, il va habiter là-bas. Et il y a une question quand même qui se pose. Quoi, les Ottomans, ils vendent comme ça des territoires à des Juifs ? Quand tu t'appelles le baron de Rothschild et que tu fais un méga chèque, ça bava. Mais là, Rabbi Yoel Moïse Salomon, il n'a pas de quoi faire un gros chèque. Et il ne va pas aller voir le baron de Rothschild. Il dit qu'il faut rester indépendant. Alors, il fait quoi ? Ben, il va se voir avec son argent, il rassemble son argent et yallah, on y va. Sauf que là, il est évident que les musulmans ottomans ne peuvent pas vendre à des juifs, c'est interdit. Et c'est là qu'arrive sa femme. Vous vous rappelez de sa femme? Eh bien, sa femme, Rabbi Yoel Moïse, eh bien, comme je vous l'ai dit, elle parle très bien l'arabe, avec sans aucun accent. Résultat des courses, eh bien, à chaque fois que Rabbi Yoel Moïse veut acheter quelque chose, ça va commencer là, mais ça continuera après, eh bien, il va tout simplement envoyer sa femme, habillée en arabe, qui va parler en arabe, disant qu'elle représente un riche musulman. Et c'est comme ça que les Ottomans vont lui vendre à elle les terres. Et résultat des courses, bah, Rabbi Yoel Moïse, il en profite derrière. Voilà ce qu'on s'appelle un travail de couple. Bon, bah, très bien, c'est bien tout ça. Mais ça ne suffira pas. Comment ça ne suffira pas? Ça ne suffira pas. Faire un nouveau quartier à Jérusalem, c'est bien. Mais si on veut véritablement mettre en pratique la Torah Tassod, c'est-à-dire la résurrection du peuple juif en terre d'Israël, nous ne pouvons pas nous contenter d'un petit quartier. Nous devons voir les choses en grand. OK. Ça veut dire quoi, voir les choses en grand? Tant que nous vivons à Jérusalem, nous vivons de ce qu'on appelle Kaspe Achalouka, c'est-à-dire l'argent qui vient des communautés de Houtzlaret et qui est réparti entre les différents pays, entre les différentes villes, enfin, entre les différentes villes de Haré HaKodesh, entre Hebron, Tzfat, Yerushalayim, qui sont les villes qui reçoivent l'argent des différentes communautés de Houtzlaret. Nous dit Rabbi Yoel Moïse Salomon, si on veut que ça marche, et que la résurrection du peuple juif soit quelque chose de sérieux, nous ne pouvons plus vivre uniquement sur les Kispé Achalouka. Je veux bien, mais alors on fait comment? Eh bien, il faut être capable de devenir un village agricole. Et donc, en devenant un village agricole, eh bien, on aura notre propre agriculture. Et donc, eh bien, ayant notre propre agriculture, nous pourrons enfin être autosuffisants et indépendants. Alors, on y va. Alors, c'est parti. Alors, on va acheter un territoire. On va acheter un terrain et c'est parti. C'est quoi le terrain qu'on va acheter? Eh bien, Rabbi Yoel Moïse, il veut réaliser la prophétie. Comment ça, la prophétie? Quelle prophétie? Il veut réaliser la prophétie de la reconstruction de la vallée maudite. Mazéa, vallée maudite. Mazéa, si pour Azé. Eh bien, la vallée maudite, il la connaît. C'est qui? Eh bien, c'est d'après ce qui est marqué simplement dans le Tanakh, quoi, qu'il y a un endroit qui s'appelle Emek Yericho. Et Emek Yericho, la vallée de Yericho, eh bien, Yericho a été maudit à cause de l'action de Riel Bet Haéli. Et donc, eh bien, cette ville de Yericho est la malédiction. Mais Rabbi Yoel Moïse veut transformer ça, car il nous dit dans le verset qu'on va aller mi Emek Achor le Petach Tikva, que de cette vallée maudite, eh bien, sera l'ouverture de l'espoir. Et donc, il décide d'acheter les terrains qui sont adjacents à Jéricho pour y construire là-bas sa ville. Bon, ça ne marche pas. Enfin, je préfère te le dire tout de suite, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Eh bien, tout simplement parce qu'avec les Arabes de Jéricho, ce n'est pas possible. Bon, ben, Kitsour, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va acheter un autre terrain. Pas de problème. Quel est le seul terrain qu'ils arrivent à acheter avec l'argent qu'ils ont ramassé? Eh bien, ça ne sera pas Jéricho, mais ça sera un terrain qui, comment vous dire, c'est un énorme marécage. C'est un énorme marécage avec la malaria, avec personne aux alentours. Les Arabes de la région n'habitent pas là-bas parce que tout le monde sait que bien qu'il y ait de l'eau, il y a l'eau du Yarkon, mais elle est complètement contaminée. Impossible de la boire, impossible de l'utiliser en agriculture. Bekitsour, tu ne peux pas vivre là-bas. Et comme tu ne peux pas vivre là-bas, eh bien, les Arabes n'ont aucun problème à s'en débarrasser. Et Rabbi Yoel Moshe Salomon, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul avec des copains. Il va réussir à se dire, bon, nous, on y va. Nous, on achète. Nous, on achète parce que la réussite de la résolution nationale passe par la résurrection agricole. Donc, on va y arriver. C'est tout. On va y arriver et on ne va pas se laisser abattre. Et donc, ils achètent une petite région à côté du Yarkon. Et c'est parti. Le problème, c'est que c'est parti. Lorsque il se balade en cheval dans la région, tous les Arabes qu'il rencontre lui disent, mais enfin, même nous, on a abandonné l'idée de venir faire quelque chose ici. Ça ne marchera pas. Il n'y a rien qui va pousser ici. Rabbi Yoel Moshe ne s'arrête pas et il ne fait que citer le Zohar et il ne fait que citer les versets de la Torah où il explique que ça va, oui, marcher. C'est tout. Ça va marcher. Et les Arabes commencent à voir dans ce personnage-là un personnage extrêmement dangereux parce que il est en train, par son charisme et par sa Torah, eh bien, d'avancer sans se poser de questions. Et donc, lorsqu'ils achètent le terrain, les Arabes leur vendent parce qu'ils sont certains que rien ne va marcher, eh bien, nos cinq amis, parce qu'il n'est pas tout seul, Rabbi Yoel Moshe Salomon, il est avec d'autres amis, il est par exemple avec Rabbi David Gutman, Rabbi Yoshua et Stamperfer, Verabi Zerar Branet. Alors, tous ensemble, ils vont à cet endroit-là qu'ils viennent d'acheter et ils demandent l'aide d'un monsieur qui s'appelle le docteur Mazaraki. Le docteur Mazaraki, il est le spécialiste en Eretz Israël pour tout ce qui est les maladies infectieuses. C'est-à-dire quel rapport? Il dit, voilà, il y a la malaria ici, il y a peut-être d'autres trucs. On veut demander l'avis d'un professionnel de santé de savoir est-ce que c'est faisable de faire un village ici. Le docteur Mazaraki va passer une journée entière avec eux. Une journée entière avec eux. Mais je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Nous sommes en 1878, Rabotaï. 1878. Je parle donc de 4 ans avant 1882 et les premières aliotes, avant la réussite de Maskeret Batia, de Rishon LeZion, de Zichron Yaakov. On est avant tout ça, avant les épopées du baron. Nous avons un homme qui s'appelle Rabbi Yoel Moshe Salomon, avec ses copains. Ses quatre autres copains, on les appelle les cinq cavaliers. Et avec ce docteur Mazaraki, il passe la journée dans cette région-là qu'ils viennent d'acheter. Et à la fin de la journée, le docteur Mazaraki va monter sur une petite bâtisse en ruine et il regarde le ciel. Il regarde le ciel pendant plusieurs minutes sans s'arrêter. Et lorsqu'il baisse les yeux sur ces hommes complètement pétris d'idéal, il le regarde et il leur dit: j'attendais le signe pour pouvoir vous le dire. Maintenant, je l'ai. Je suis désolé de vous apprendre cela. Ça ne marchera pas. Il dit, mais comment ça? J'ai regardé depuis quelques minutes le ciel et il n'y a aucun oiseau à des kilomètres à la ronde. Et ça, s'il n'y a pas d'oiseau, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, ça veut dire que vous n'arriverez pas à survivre ici. Donc, je suis désolé de vous mettre dans cette situation où je vous enlève l'épine sous le pied, mais en malasot, enfin, je vous mets l'épine dans le pied en fait, et ça ne marchera pas. Et alors que Rabbi Yoel Moshe le remercie de tous les efforts qu'il a fait, il se concerte avec ses amis, et à la fin de la concertation, ce sont des pleurs. On entend des cinq personnages. Le docteur Mazaraki leur dit: je suis désolé de vous avoir mis dans cet état-là. Et les cinq disent: mais vous n'avez pas compris, on pleure parce qu'on vient de prendre une décision, et la décision est: on le fait quand même. Mais enfin, ça ne marchera pas. ça marchera. Lama, qui Hachem yé bezrenu. Et c'est parti. Et l'aventure commence. Et on commence à creuser pour trouver des nappes phréatiques, pour trouver des puits. Et il cite les versets de Yitzhak, qui est Chofer Be'erot, et tout le Zohar Parasha de Chaye Sarah, de Toldot. On est en train de vivre la région. On n'est pas en train d'écrire un livre de Torah. On est en train de toraïfier la résurrection nationale. Et vous savez quoi? Alors que normalement, eh ben, on trouve de l'eau à maximum 19 mètres. À 19 mètres, ils ne trouvent rien. Et ils ne vont pas se décourager. Et ils vont continuer à creuser jusqu'à 31 mètres, voire 32. Et c'est là-bas qu'ils vont trouver de l'eau. Et à partir de là, ben c'est parti. L'eau commence à couler dans cette nouvelle Moshava. Et ça y est, on peut enfin commencer à faire le premier sillon dans la terre pour pouvoir commencer l'agriculture de ce qui va devenir Emma Moshavot, la maman de toutes les implantations, Petah Tikva. C'est fou. Et ça marche. Et ça marche. Petah Tikva aujourd'hui est la quatrième plus grande ville d'Israël. Incroyable. Au moment où ça marche, eh bien, ben évidemment, puisque ça marche, il y a des rageux, des gens qui ne sont pas contents. Et c'est qui ces gens qui ne sont pas contents? Ben, les Arabes de la région. Comment ça? Les Juifs, ils ont réussi. Et ils essayent de venir leur prendre leur terre. Et c'est là que Rabbi Yoel Moshe, encore une fois, sort ses psoukim de son chapeau, mais aussi des bouts de bois, des gourdins, des fusils. Et ils sont prêts à se défendre pour défendre leur nouvelle ville, pour défendre Petah Tikva. Et les Arabes comprennent que faut pas les chercher, ceux-là. Faut pas les chauffer. Donc, puisqu'il ne faut pas les chauffer au niveau attaque en bande organisée, parce qu'ils sont fous, les hommes de Rabbi Yoel Moshe, et ils tapent sur tout ce qui bouge, alors on va les attaquer sur un niveau plus diplomatique. Et en fait, on va tout simplement venir dire que les Juifs ont pris des territoires illégalement et donc faut les expulser de là. Oh, tu as essayé d'expulser Rabbi Yoel Moshe Salomon, mais je crois que tu n'as pas bien compris. Comment ça, je n'ai pas bien compris? J'ai très bien compris. Ah non, tu n'as pas bien compris. Tu veux m'expulser? Pas de problème. Rabbi Yoel Moshe s'en va. Il s'en va voir un consul. Le consul d'Allemagne, pour être exact. De Prusse. Pourquoi? Eh bien, parce que Rabbi Yoel Moshe Salomon, de par sa naissance, il est citoyen allemand. Eh ouais! Et donc, il vient voir le consul de Prusse et lui dit, le consul d'Allemagne, il lui dit, on essaye de déraciner des citoyens allemands de leur maison en Terre Sainte, vous imaginez? Et là, ni une ni deux, c'est le consul d'Allemagne qui prend son téléphone, qui appelle les Ottomans, qui leur dit, j'ai entendu dire que vous étiez en train de faire des problèmes dans la nouvelle ville de Petah Tikva, là où sont installés des citoyens allemands. Vous cessez tout de suite, car la prochaine fois que vous en prendrez à une maison d'un citoyen allemand, nous prendrons cela comme une déclaration de guerre et nous serons obligés de répondre. Ouah, ça fait longtemps que les goyim ils parlent plus comme ça avec nous. Hein. Mais Bekitsour, c'est ce qui se passe, et ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Jusqu'à un moment donné où les Ottomans vont tout simplement proposer au consul d'Allemagne de venir à Petah Tikva pour bien voir les endroits qui sont bémettes, les endroits que les Juifs ont achetés et les endroits sur lesquels ils s'implantent de manière illégale. Et donc, ils décident de faire une rencontre. Rabbi Yoel Moshe n'est pas invité, mais ils s'invitent. Ils disent, attends, on parle quand même de ma ville, je viens. Seulement, ils donnent un rendez-vous, les Ottomans donnent un rendez-vous assez loin. Et au point de rendez-vous assez loin, il y avait des chevaux. Et donc, on monte sur les chevaux qui sont censés nous amener à Petah Tikva. Le problème, c'est que le cheval qui était donné Reb Yoel Moshe Salomon est un cheval fou. Et donc, il n'arrive pas à le dompter, il part dans tous les sens. Et les autres partent pour faire le tour du terrain, pour voir là où ce sont les maisons juives et là où ce n'est pas. Et si Reb Yoel Moshe n'est pas là, ils vont essayer de les entuber. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à courir derrière eux. Mais c'est des kilomètres et des kilomètres. Il n'arrivera pas à courir jusqu'au bout. Mais Reb Yoel Moshe crie dans sa course, Shluchem mitzvah enam nizokim, v'akadosh baruch hu matzlar darki. Incantation ou pas, il rencontre tout d'un coup un de ses... qui faisait le tour du domaine à cheval. Et donc, il lui dit, j'ai besoin de...
Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai un problème de connexion encore, on dirait. Attends, je donne le droit.
Tu m'entends ?
Ouais.
Non, c'est pas un problème de connexion, c'est on m'a appelé, deux fois on m'a appelé et quand ça m'appelle.
Ah, et ça met en mute derrière, ok.
Ça met en mute. Bekitsu, donc, finalement, il retrouve le groupe et il réussit à montrer le territoire qui est le territoire acheté comme il se faut en bonne et due forme. Mais qui sont vous comprenez que Reb Yoel Moshe Salomon, avec sa Torah Tassod, mais concrète, il va construire la maman de toutes les Moshavot. Après avoir construit le quartier de Nachalat Shiva, il construit Petar Tikva. Et une fois qu'il a commencé à faire tout ça, eh bien, il est envoyé par les rabbins d'Eretz Israël, comme son père avant lui, en tant que Shadar, Mazé Shadar, eh bien, Shlucha de Rabbanan, il est envoyé en Chutz Laaretz pour récupérer de l'argent pour Eretz Israël. Et il y va. Et il dit, Leman Yerushalayim lo eshkot. Il est toujours un homme de Jérusalem, bien que maintenant il a construit Petar Tikva. Et il se balade dans toute l'Europe. Il se balade dans toute l'Europe, puis à un moment donné, ses voyages de communauté en communauté l'amènent dans une ville, la ville de Bioïsk. Pas mal. La ville de Bioïsk, en Lituanie. En fait, il n'arrive pas là-bas parce qu'il y a des grands riches qui vont pouvoir l'aider, mais il arrive là-bas parce qu'on lui a raconté que là-bas, à Bioïsk, il y avait un rabbin très particulier qui n'existe nulle part ailleurs. Il est jeune, mais il y a quelque chose avec ce rabbin-là. Et on lui dit, il faut que tu le rencontres. Vous allez certainement très bien vous entendre. Et donc, Reb Yoel Moshe Salomon va à Bioïsk et il se présente comme étant Shadar d'Eretz Israël. Et à ce moment-là, il demande l'hospitalité du rabbin et il va vivre chez lui pendant 3 mois. 3 mois durant lesquels, eh bien, il part, c'est assez central Bioïsk en Europe de l'Est. Et donc, de là, il peut aller dans d'autres communautés pour aller récupérer de l'argent. Mais pendant 3 mois, il va côtoyer ce rabbin. Et ils parlent tous les soirs quand ils sont là, quand Reb Yoel Moshe est à Bioïsk, eh bien, il va tout simplement parler avec lui, parler avec lui, parler avec lui. Et il se prend d'amour pour ce rabbin-là. J'ai plus que de l'amitié. Il est fan de lui et il est persuadé qu'il est la réponse que toute la terre d'Israël attend. Il est celui qui réussira à traduire en Torah, parce que lui dit, moi, Rabbi Yoel Moshe, je veux bien faire des livres et Torah, mais je n'écris pas de livres. Moi, je suis dans l'action. Je ne suis pas dans la transmission de la Torah. Mais celui-là, il traduira en Torah tout ce que nous, on est en train de faire. Et vous comprenez que, en fait, il vient de passer 3 mois chez un rabbin qui s'appelle le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook. Si bien que dès qu'il va rentrer en Eretz Israël, Reb Yoel Moshe Salomon, eh bien, sa dernière grande action, alors qu'il est déjà âgé, alors que lui, il mourra en 1912, Reb Yoel Moshe Salomon, et c'est en 1903 qu'il va faire son dernier grand chantier, 9 ans avant sa mort. Après, il ira se poser tranquillement. Il sera malade les dernières années de sa vie, mais son dernier grand chantier en 1903, c'est de prendre toutes les de faire toutes les pressions qu'il peut auprès des Ottomans, auprès des Allemands, toutes les pressions possibles pour réussir à trouver un certificat pour faire venir ce rabbin qu'il a rencontré à Bioïsk, le Rav Kook, et il va réussir à faire venir le Rav Kook en Eretz Israël. C'est lui qui le fait venir pour devenir le grand rabbin de, d'abord, Tel Aviv, Yafo et Amoshavot, et ensuite, le grand rabbin de Eretz Israël. Lorsque finalement, en 1904, le Rav Kook arrive en Eretz Israël, eh bien, qui est sur le quai du port pour accueillir le Rav Kook? Eh bien, c'est Reb Yoel Moshe Salomon. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'il est connu dans tout le pays, Reb Yoel Moshe. Tout le monde le respecte. Tout le monde sait qui il est et combien il agit. Et quand il le voit danser autour du Rav Kook pour l'accueillir, eh bien, c'est ça qui va donner la Kabbalat Panim au Rav Kook, qui fait que tout le monde en Israël se dit, mais attends, si Reb Yoel Moshe Salomon, il accueille comme ça ce rabbin-là, c'est que nous aussi, on doit l'accueillir comme ça. Et c'est ça qui va permettre au Rav Kook, ben, finalement, de devenir celui qui va devenir. Voilà, Reb Yoel Moshe Salomon, une vie d'action, pas d'écriture, pas d'enseignement, mais c'est un rabbin qui est un enseignement de vie. Toute sa vie a été un enseignement. Il ressemble beaucoup au Rav Shmuel Mohaliver que nous avons évoqué il y a deux semaines, enfin il y a trois semaines. Ils sont ces rabbins-là qui sont pétris de Torah Tassod, mais qui ne vont pas être des rabbins qui vont simplement enseigner et dire des divrei Torah, mais qui vont tout simplement devenir les acteurs de cette Torah Takabala pour reconstruire la réalité d'Israël. Et oui, on ne le connaît pas. Je sais que tu ne le connais pas. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir sur Google les photos qu'on te met. Si tu marques Rabbi Yoel Moshe Salomon, tu vas voir la statue de Rabbi Yoel Moshe à l'entrée de Petah Tikva. Si tu marques sur YouTube Rabbi Yoel Moshe Salomon, tu vas avoir tout de suite la chanson de Arik Einstein sur les cinq cavaliers et Yoel Moshe Salomon. Les amis, c'est de ça qu'on parle. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Salomon? On a dit que son grand-père s'appelle Reb Shlomo Zalman Tzoref. Alors, pourquoi il ne s'appelle pas Tzoref? Eh bien, tout simplement parce qu'il se revendique comme étant le fils de son père, qui lui-même était le fils de son grand-père. Et donc, il décide de prendre le nom de leur grand-père, Shlomo, Salomon, Salomon. Comment Salomon? Vous êtes juif? Eh bien, les amis, voilà la vie d'action de Rabbi Yoel Moshe Salomon. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on traversera le désert pour arriver jusqu'aux rives de Bagdad pour parler de Rabbi Yosef Chaim à Ben Ishray. Bezrat Hashem, l'inéder, la semaine prochaine. Voilà, s'il y a des questions,